Terre à Terre, le magazine de l'environnement, on s'intéresse ce matin à la beauté des affaires et au business des mouches et des chiens de prairie. Sandrine Fedel, ce documentaire qui va être diffusé sur Arte le 3 février, donc la semaine prochaine, qui s'intitule « Nature, un nouvel Eldorado pour la finance », je dois vous dire que mon premier étonnement, ça a été comment est-ce qu'elle a réussi à convaincre une chaîne, Arte en l'occurrence, de diffuser un documentaire de 90 minutes sur un sujet a priori aussi peu engageant.
Mais en fait, Arte a été convaincue assez rapidement, d'autres chaînes aussi, mais au final, voilà, c'est vraiment Arte qui a réussi à le produire jusqu'au bout. Et non, ça fait longtemps qu'ils s'intéressent aux mécanismes qui ont conduit à la dernière crise économique. Ça fait longtemps qu'ils s'intéressent à ces mécanismes de marché. Et donc proposer un documentaire qui montre quelles peuvent être les prochaines étapes dans cette financiarisation du monde, en l'occurrence là la nature, ça les a fortement intéressés au début. Après, il a fallu faire des mois et des mois, évidemment, d'enquête pour réussir à prouver, à montrer que tout ce qu'on montre dans le documentaire n'est pas du tout de la science-fiction, mais quelque chose de réel, d'organisé, et qu'on se dirige vers une espèce de hold-up planétaire sur les ressources vivantes.
Des mois et des mois d'enquête, dites-vous, avant d'écrire le projet définitif, ou une fois le projet écrit, et donc pour réaliser le documentaire ?
Non, il y a eu plusieurs mois d'enquête avant l'écriture du documentaire, c'est un passage assez classique. Une fois que Arte s'est montré intéressé par le documentaire, de nouveaux mois d'enquête et aussi de démarches sur le terrain pour voir quelles étaient les séquences qui étaient faisables, dans quel pays, avec quelles personnes. Et à partir de cette enquête, effectivement, on a pu commencer un véritable tournage.
Bon, mais ça, c'est un peu le processus habituel, me semble-t-il, pour faire un documentaire télé. Ce que j'essaie de comprendre, c'est si vous avez découvert encore plus de choses au cours de cette enquête dont vous parlez, ou si vous aviez déjà une idée assez précise, et ensuite on va voir d'un peu plus près ce que c'est que cette idée.
Non, au tout départ, j'avais aucune idée précise. Au tout départ, il y a une conférence sur la transition énergétique qui a lieu dans le sud de la France, il y a maintenant 3 ans, et où, à la fin d'une intervention d'une économiste sur l'économie verte et les dangers et les revers de l'économie verte, une personne dans l'assistance se lève et explique à l'auditoire qu'en fait, aux États-Unis, ce sont déjà des banques qui protègent des espèces en voie d'extinction, des espèces en voie de disparition, donc des espèces animales et des habitats pour ces espèces en danger. Et que la protection de ces espèces là-bas est déjà privée, est déjà soumise aux lois du marché. À ce moment-là, je me dis que c'est un peu bizarre, voilà, c'est un peu réflexe de journaliste, où je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, quoi, voilà. Donc je vais voir cette personne à la toute fin de la conférence. Il s'avère que cette personne est chercheur. C'est un chercheur donc CNRS, un historien qui s'appelle Christophe Bonneuil, qui m'explique les bases donc de ce mécanisme de marché aux États-Unis. Et à partir de là, je décide d'enquêter. Et je vois que ces mécanismes commencent à arriver en France parce qu'il se trouve que la Caisse des dépôts, par sa filiale CDC Biodiversité, a déjà commencé, donc il y a 3-4 ans, dans le sud de la France, dans la plaine de la Croix, a proposé des instruments de compensation, a proposé donc des banques, voilà ce qu'on appelle des biobanques, pour protéger un habitat, une zone naturelle exceptionnelle, qui est la seule zone de steppe en Europe occidentale. Et de fil en aiguille, je commence à m'intéresser à ce domaine-là, et je me rends compte que c'est une tendance qui était sous-jacente et un peu, c'est pas caché, mais en tout cas pas mise devant les yeux du grand public depuis une 20aine d'années, et que tous ces mécanismes donc de marché, prétendument ayant pour but en fait de protéger et de sauver la nature, se mettent en place au niveau des institutions internationales, se mettent en place au niveau de différents États, sont poussées, développées aussi par des grandes entreprises, sans que quiconque ne soit au courant. Donc c'est de là qu'a commencé une véritable enquête qui nous a amenés aux quatre coins de la planète.
Alors c'est curieux, Sandrine Fedel, parce que vous parlez de ce processus qui s'est fait discrètement, au moins, en tout cas, en coulisses, sans effectivement que le grand public soit tenu, informé, consulté, sollicité, sans qu'on lui demande son avis, même. Un des premiers arguments d'un des premiers intervenants dans votre documentaire, Pavan Sukhdev, qui est un des personnages clés, on va certainement parler de lui assez longuement, c'est que toutes ces richesses produites par la nature sont invisibles aux yeux du marché. Un invisible pour un autre invisible.
C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'ils appellent l'invisibilité économique de la nature. La façon positive de présenter ça, c'est de dire quand une entreprise ou un État détruit une zone riche en biodiversité, elle n'est pas redevable pour cela. Elle n'est pas redevable au plan économique, au plan comptable, au plan monétaire. Et donc pour eux, ce sont ce qu'on appelle des externalités économiques, c'est-à-dire que ce n'est pas inclus dans leur compte, dans le compte des entreprises. Très concrètement, si un État décide de construire une autoroute ou des infrastructures à un endroit, si une entreprise, une multinationale ou une entreprise plus petite décide de s'installer et de mener à bien un projet, qu'il soit de petite ou de grosse ampleur, et détruit ainsi un habitat où il y a des espèces en voie de disparition, il n'est pas redevable pour ça. Et Pavan Sukhdev, cet économiste qui prend une démarche qui existe depuis un moment, mais lui l'a portée vraiment au plan international, l'a vraiment poussée pour qu'elle soit considérée comme évidente, comme logique. C'est de dire, si on disait à l'entreprise, regardez ce que vous avez détruit, cette espèce-là, elle vaut tant, cette espèce-là, elle vaut tant parce qu'elle apporte tel et tel service à l'humanité. À ce moment-là, l'entreprise serait obligée de payer, l'État serait obligé de payer, donc de participer à la conservation aussi de cette espèce, et donc ferait attention à cette espèce, et en même temps pourrait financer donc la protection, et en même temps aussi se poserait la question à deux fois avant de mener à bien ce projet.
Alors là, je vous arrête, Sandrine Fedel, parce que vous dites une entreprise ou un État serait obligé de payer pour la destruction. Prenons l'exemple des abeilles, puisque c'est celui que vous donnez dans votre film. Les abeilles qui pollinisent, on le sait maintenant, qui pollinisent les arbres fruitiers, et comme il y a de moins en moins d'abeilles, on est obligé, les grandes exploitations d'amandiers en Californie sont obligées de louer les services de ruchers entiers pour venir polliniser leurs récoltes, faute de quoi il n'y aurait pas d'amandes, faute de quoi ce serait une catastrophe économique. D'accord. Le mécanisme, il n'est pas aussi évident que ce que vous venez de dire quand vous dites un État ou une entreprise serait obligée de payer et donc de protéger les abeilles en question, par exemple. En l'occurrence, dans le cas des abeilles, effectivement, on paye pour les services des abeilles, mais on sait très bien qu'à la fin de cette pollinisation à marche forcée, les abeilles meurent, en fait. C'est un coup. Et puis après, plus rien. Les abeilles, elles ne retournent pas chez elles.
D'après Pavan Sukhdev et d'après d'autres économistes aussi de sa lignée, l'important, c'est d'évaluer ces pertes économiques associées à la disparition de certaines espèces. Donc très concrètement, avec l'exemple que vous avez pris, c'est-à-dire la disparition des abeilles, ce chiffre-là a été évalué. Les économistes se sont dit, à combien cela reviendrait-il de remplacer le travail que fournissent les abeilles par des mains des hommes ? À combien cela reviendrait? Et ce chiffre-là a été évalué à 200 milliards de dollars, selon Pavan Sukhdev, donc c'est quand même 8% de la production agricole sur Terre. Il y a d'autres calculs de ce type qui ont été faits. Par exemple, la pluie de la forêt amazonienne. Parce que la forêt amazonienne et la pluie, donc, qui se répand chaque jour aussi partout sur les différents pays qui la composent, nourrit une économie agricole. Et s'il n'y avait pas de pluie dans la forêt amazonienne, il n'y aurait pas d'économie agricole, donc il n'y aurait pas d'agriculteurs, donc il n'y aurait pas de production agricole. Et ce chiffre-là a été évalué aussi à 240 milliards de dollars. Partout dans le monde, l'évaluation de ces services a déjà commencé, soit sur des zones très étendues, comme c'est le cas pour la forêt amazonienne, mais aussi sur, par exemple, des systèmes de récifs coralliens, sur des forêts en Afrique, sur d'autres forêts en Europe du Nord. L'idée de Pavan Sukhdev est de montrer aux États la richesse qu'ils ont. Et pour lui, malheureusement, entre guillemets, aujourd'hui, tout ce qui n'est pas compté de façon monétaire, avec l'argent, ne compte pas. Et donc, en donnant un prix, en mettant une valeur monétaire, on peut ainsi montrer l'importance de ce qui s'appelle le capital naturel.
Alors évidemment, on pourrait dire que c'est à la fois vrai et pas complètement vrai, qu'il y a, de la part des États, depuis déjà une cinquantaine d'années, tout de même une prise de conscience, même si elle est lente et difficile, mais qu'il y a eu des lois de protection de l'environnement. Il y a aujourd'hui en France des lois qui enquiquinent pas mal un certain nombre d'entreprises qui voudraient se monter. Il y en a également aux États-Unis, l'Environmental Protection Act, qui remonte aux années 60, je crois. Donc, cette idée, est-ce qu'elle est contrebalancée par les législations déjà en place ?
Oui et non. Il faut faire un petit retour en arrière. Il se trouve que dans les années 60-70, au niveau international, il y a eu des avancées au niveau de la protection de l'environnement qui ont été très fortes, que ce soit en France ou que ce soit aux États-Unis. Aux États-Unis, il y avait un consensus à l'époque assez fort entre démocrates et républicains. La protection de l'environnement était quelque chose de régulé par l'État. Et il n'était pas question de le faire d'une autre façon. Donc c'est dans cette décennie-là qu'ont été créées beaucoup d'agences de ministères de l'environnement, déjà, dans plusieurs pays. C'est aussi dans cette décennie-là qu'aux États-Unis a été créé l'EPA, l'Agence de protection américaine pour l'environnement. Et donc il y a eu un certain nombre d'avancées au niveau des régulations, de lois, de règlements qui ont fait qu'il y a eu des protections plus importantes sur la qualité de l'air, sur la qualité des eaux, la création de parcs nationaux également. Et ces avancées-là ont fait très peur à certains lobbies industriels qui ont mené une bataille très forte. Les historiens américains ont appelé « the environmental backlash », le retour de bâton environnemental. Et ils ont essayé de mettre en place, ils ont mis en place en fait, des lobbies pour contrebalancer toutes ces avancées, pour montrer qu'elles coûtaient très cher aux contribuables, pour montrer qu'elles étaient inefficaces et que l'efficacité viendrait plutôt du marché. Voilà. Et ces lobbies industriels, on peut en citer un qui s'appelle The Heritage Foundation, ont chiffré carrément le coût des régulations environnementales, le coût que les entreprises subissaient, du coup, dans leur développement, dans leur croissance. Et ces lobbies ont eu un très fort écho au moment de la campagne de Ronald Reagan. Quand Ronald Reagan est arrivé au pouvoir, il s'est en fait appuyé sur ces préconisations de Heritage Foundation. Et quand il est arrivé au pouvoir, d'ailleurs, on montre bien dans le documentaire, il y a clairement un moment où il dit dans sa campagne « Mais si on vivait comme les écolos nous disent de vivre à la Maison-Blanche, on serait dans des nids d'oiseaux ». Il y a un moment où on le voit en campagne, quand il est en campagne donc pour son élection, dans un état qui est un état clé à ce moment-là, dans l'Ohio. Et il va dans une usine où il y a eu des milliers de licenciements à ce moment-là. Et donc il va voir tous les ouvriers, il fait un bain de foule assez impressionnant. Et quand il s'adresse donc à tous les ouvriers encore présents, il dit clairement que si les personnes ont été licenciées, c'est à cause des législations trop restrictives, trop draconiennes de l'EPA, donc de l'Agence de protection de l'environnement, qui a fait augmenter les coûts, qui a durci les normes, et cette entreprise-là n'a pas pu suivre, n'a pas pu payer ses coûts et a été obligée de licencier donc ses milliers d'ouvriers. Et quand il arrive au pouvoir, Une des premières mesures qu'il prend, c'est de baisser le budget d'un quart, qui est quand même énorme, de l'Agence de protection donc de l'environnement. Il y a eu plus d'un millier de licenciements qui ont eu lieu. Et petit à petit, il casse ses règles environnementales de plus en plus pour que la croissance la croissance des entreprises ne soit plus freinée. Et ça aboutit quelques années plus tard, après l'élection de George Bush, en 91, George Bush signe une loi qui met en place en fait les premières biobanques aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des lieux qui sont exceptionnels en biodiversité, qui s'appellent les wetlands, les zones humides. Ce sont des espèces d'étendues marécageuses qui sont immenses, où il y a une biodiversité animale, végétale qui est exceptionnelle. Mais certains industriels voudraient s'installer sur ces zones-là. Et donc George Bush invente ce qu'il a appelé le pas de perte nette, c'est-à-dire qu'un industriel a le droit de détruire une partie de ces zones humides à condition de payer pour compenser la protection du même type de cette zone humide à un endroit B. Voilà. Donc je détruis à un endroit A, je peux détruire à cet endroit si je paye pour protéger à un endroit B. Et c'est le début des biobanques, ce qu'aux États-Unis ils appellent ça les mitigation banks, on peut traduire par biobanque. C'est là que les biobanques sont lancées.
C'est aussi, me semble-t-il, Sandrine Feydel, et on le voit vraiment de manière très spectaculaire dans votre documentaire, c'est le point zéro du tour de passe-passe auquel on assiste, en fait, qui a consisté, dans un premier temps, à discréditer tout ce qui était regard environnemental porté sur le monde. Vous l'avez décrit à travers la campagne de Bush, mais moi, je pense que c'est beaucoup plus large que ça, qu'on ne peut pas rester uniquement aux États-Unis, qu'il y a eu effectivement tout un travail de dénigrement des préconisations et des observations portées sur la destruction de la nature. Et puis, à un moment, ce qui apparaissait comme une contrainte de plus en plus lourde, de plus en plus pénible, surtout au regard de la crise économique qui s'installait durablement, à l'époque, on ne savait pas encore que ça serait si durable, mais à ce moment-là, tout à coup, quelque chose qui était simplement une contrainte devient déjà une petite opportunité.
L'idée est exactement celle-là. C'est la protection de l'environnement coûte cher si on la considère comme une contrainte. Or, l'idée est de la transformer en une opportunité économique pour les acteurs privés. Et vous avez tout à fait raison quand vous dites que l'idée n'est pas de se cantonner aux États-Unis. Il y a aussi un double mouvement, parce que ça se passe aussi au niveau des institutions internationales. En 1992, a eu lieu le sommet de la Terre à Rio de Janeiro. À ce moment-là, seule une poignée, quand je dis une poignée, c'est moins de 10, je crois qu'ils étaient 7, une poignée de multinationales était présente à Rio. Et à cette époque-là, ça n'est venu à l'idée de personne de se dire qu'il était possible de protéger l'environnement avec des multinationales. Et ces multinationales se sont dit, ces règles commencent à freiner notre développement. Il y a des mouvements contestataires partout dans le monde, qui ont déjà commencé depuis les années 70, donc qui grossissaient, où on voyait qu'il y avait des contestations au niveau des marées noires, par exemple, au niveau de grandes catastrophes, au niveau de l'utilisation croissante de pesticides. Et donc ces multinationales se sont dit, plutôt que de subir, il faut que nous accompagnions, il faut que nous soyons partenaires.
Voilà, c'est pas seulement plutôt que de subir. Il me semble qu'à un moment, il y a eu la prise de conscience. Enfin, je me suis dit ça en regardant votre documentaire. Vous allez peut-être me contredire, mais à un moment, l'idée, ça a été, nous ne pourrons pas attaquer frontalement cette contestation, nous allons la contourner.
Nous allons non seulement la contourner, mais nous allons faire en sorte de la co-gérer et d'y participer. Donc il y a des lobbies qui se sont créés. Celui qui est le plus actif aujourd'hui, il s'appelle le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable. Il n'a pas été créé en 92, mais les racines donc, de ce lobby ont été fondées à ce moment-là. Et cet organisme rassemble 200 multinationales, parmi les plus importantes de la planète. On trouve des entreprises minières, pétrolières. Et l'idée de ces entreprises, c'est de montrer, depuis plus de 20 ans, à quel point elles sont engagées dans le développement durable. Et ça a tellement bien marché qu'au dernier sommet de la Terre, toujours à Rio, mais en 2012, il y a eu plus de 2700 entreprises multinationales qui ont été invitées et qui se sont rassemblées quelques jours, en deux fois, quelques jours avant le sommet de la Terre et aussi lors d'événements parallèles, donc au sommet de la Terre de Rio. Elles commentaient chaque jour les avancées au niveau des discussions du texte final, donnaient publiquement leur avis, se réunissaient et elles étaient invitées par l'ONU.
Bon, Sandrine Fedel, je vous ai proposé d'élargir à la planète entière, mais maintenant, voilà, on va faire l'inverse, on va retourner aux États-Unis, puisque vous évoquiez les biobanques qui sont nées là-bas. Et j'aimerais que vous nous expliquiez un peu plus longuement comment elles fonctionnent. Vous donnez un très joli exemple, celui d'une mouche amoureuse des fleurs et qui a réussi à exaspérer toute une population.
On est allé à 200 km de Los Angeles, à l'est de Los Angeles. Il y a un écosystème assez particulier là-bas. C'est un endroit assez désertique où il y a beaucoup de dunes, de sable, d'un sable qui est amené de la côte pacifique par un vent qui souffle assez fort. Et il se trouve que ces dunes de sable sont l'habitat d'une mouche spéciale, qui est une espèce de grosse mouche avec des antennes, avec des gros yeux verts, qui est assez rigolote. Et elle s'appelle la mouche des sables amoureuse des fleurs. C'est son nom scientifique, voilà, traduit du latin. Au cours du XXe siècle, 95% de l'habitat de la mouche a été détruit à cause de la construction d'infrastructures. Il y a eu de plus en plus d'habitations à cet endroit-là. C'est un comté, le comté de San Bernardino, qui connaît une croissance assez forte avec sa proximité relative, donc avec Los Angeles. Elle connaît une croissance assez importante. Et donc, petit à petit, les usines se sont construites, des chemins de fer, des routes, des maisons. Et il ne reste que 5% de l'habitat original de cette mouche. Et sachant que sur ces 5%, seule une fraction supporte une bonne population de cette mouche qui vit quelques jours au tout début septembre et sinon vit entre 2-3 ans à l'état de larve, à l'intérieur des dunes de sable. Et ce qui est important, c'est une espèce qui renseigne sur la qualité, évidemment, de l'habitat des autres espèces adjacentes. La loi américaine est quand même assez protectrice, même très protectrice, des espèces en voie de disparition. Il se trouve que cette mouche a eu le triste honneur d'être la première mouche américaine placée sur la liste des espèces, des insectes en voie d'extinction. À partir de ce moment-là, tout s'arrête. C'est-à-dire que la loi interdit toute nouvelle construction, toute nouvelle installation. Donc pendant des années, la ville de Colton s'est retrouvée avec une croissance zéro. Évidemment, les maires des différentes communes, les habitants, personne n'était content parce que tout a dû s'arrêter. La construction du nouvel hôpital, la construction de nouveaux lotissements, la construction de nouveaux parkings, etc. Et une entreprise a joué le jeu de la loi Bush qu'il avait lancée en 91. Cette entreprise était déjà propriétaire de terrains et elle a décidé de ne rien construire sur ces terrains. Elle a décidé que ces terrains seraient consacrés au bien-être, à la liberté de la mouche et elle préserve l'habitat. C'est-à-dire qu'elle ne fait rien d'autre que de mettre des grillages autour de ces dunes de sable qu'elle possède et contrôle de temps en temps qu'il y a encore effectivement des mouches qui vivent là. Et cette entreprise, qui est une biobanque, a divisé son terrain en parcelles de demi-hectares et est allée voir les entrepreneurs autour en disant « Vous voulez vous installer ici ? Vous pouvez, si vous me payez, si vous achetez des actions de ma biobanque. » C'est-à-dire que si une entreprise veut détruire 10 hectares pour s'installer à Colton, L'État lui interdit, mais si cette entreprise achète des actions à la biobanque, l'équivalent de 10 hectares, elle a le droit, du coup, de s'installer sur cette parcelle.
Donc ça, c'est avec la bénédiction de l'État américain.
C'est ce que George Bush a appelé le pas de perte nette. C'est-à-dire que vous pouvez détruire la biodiversité à condition de compenser.
C'est-à-dire que tant que les mouches auront ces quelques centaines d'hectares à disposition, on pourra continuer à détruire tout autour. Jusqu'au moment où la dernière parcelle, l'ultime parcelle, aura été achetée par des destructeurs.
Non, parce que si vous détruisez 10 hectares, il faut que 10 hectares soient protégés ailleurs. Donc théoriquement, il ne peut plus y avoir de disparition d'habitat de la mouche. Mais il reste que 5%. Avant que la loi ne s'applique et avant que le couperet ne tombe, 95% de l'habitat avait déjà disparu. Donc aucun scientifique n'est capable de dire si aujourd'hui la mouche, avec les 5% qui lui restent, sera en état de vivre après. Et c'est toute la question de la valeur d'une mouche, parce qu'il se trouve quand même que cette biobanque fait des bénéfices quand même assez importants. Elle a vendu ses dernières actions, c'était quand même $250,000 pour 4000 mètres carrés.
Mais voilà, en revanche, la chose qui est sûre, c'est que, en effet, la protection de l'environnement est devenue une opportunité pour cette fameuse biobanque.
Oui, c'est ça. Pour elle, elle fait des bénéfices, elle a déjà fait 20 millions de dollars de bénéfices, ce qui est quand même pas rien. On est allé voir une autre biobanque aussi, qui s'appelle Wildlands, qui est la plus importante biobanque de l'Ouest américain. Eux, ils font 40 millions de dollars de chiffre d'affaires chaque année. Et eux, ils protègent des dizaines et des dizaines de types d'habitats. Ils vendent des actions lézards, ils vendent des actions
chiens de prairie.
Oui. Ils vendent des actions, voilà, tout type d'actions.
Marécages.
Voilà. Et ces biobanques sont en expansion, c'est-à-dire qu'il n'y en avait qu'une poignée, encore une fois, au moment où George Bush a fait sa loi en 1991. Elles sont près d'un millier aujourd'hui aux États-Unis et ce sont les principales responsables de la protection des espèces en voie de disparition.
Alors, je vais juste pour être sûre de comprendre, Sandrine Fedel, je suis désolée, mais c'est vrai que c'est des mécanismes assez compliqués. Revenons à la mouche. Il y avait, je ne sais plus combien, 130 hectares, mettons, 130 hectares, c'est pas grave. Ces 130 hectares ont été revendus par parcelle, mais on ne peut les vendre qu'une fois. Donc il y a un moment où ça s'arrête, cette histoire.
Ces hectares n'ont pas été revendus. La biobanque possède ce terrain et les garde. C'est-à-dire qu'elle l'a divisé en parcelles, mais elle l'a divisé intellectuellement en parcelles. C'est-à-dire qu'elle vend des actions qui correspondent à un demi-hectare. Un hectare, selon les espaces distribués. Et non, c'est possible, effectivement, de ne les vendre qu'une fois. Donc, une fois que les 130 hectares auront tous été vendus, elle pourra encore faire de l'argent en achetant quelques hectares à côté qui lui permettent de conserver aussi la mouche sur ses nouveaux hectares et de revendre, en fait, à des nouveaux développeurs. Mais c'est une façon pour la biobanque, soi-disant, de concilier développement économique et protection d'une espèce. C'est un système gagnant-gagnant, comme il ne cesse de le répéter. Voilà. La mouche est sauvée, la croissance n'est plus stoppée. Et le prix de l'action est déterminé par le marché. C'est-à-dire que les entrepreneurs qui souhaitent développer une parcelle donc dans ce comté de Colton regardent le prix du marché et décident en fait si c'est rentable ou pas de continuer à acheter en prenant des actions donc à la biobanque.
Ou alors s'il vaut mieux aller chez Wildlands et prendre plutôt du chien de prairie ou plutôt du marécage qui se vend très bien cette année.
C'est un peu plus compliqué que ça. La compensation doit se faire, pour l'instant en tout cas, sur le même type d'espèce et sur le même type d'habitat. Mais on en arrive à des aberrations, c'est-à-dire que, par exemple, Wildlands a dû entièrement construire des zones humides, des marécages, pour compenser certains dommages causés par des développeurs. C'est-à-dire qu'elle n'a pas acheter une zone qu'elle a décidé de protéger, elle a reconstruit un habitat. Et ça, pour l'instant, il n'y a aucune étude qui prouve que ça fonctionne. C'est comme nous l'expliquait le patron de Wildlands, c'est comme quelque part accorder un certificat de bonne volonté à des développeurs. On les soulage de leurs obligations légales.
C'est exactement le pendant des indulgences qui permettaient aux âmes potentiellement damnées d'aller au purgatoire autrefois. C'est-à-dire qu'avec un peu d'argent, on peut racheter les plus noirs péchés. Évidemment, quand on vous écoute, Sandrine Fedel, on comprend un peu mieux tout ce qui s'est passé autour de la zone humide du Testé, par exemple, où on est venu chercher des espèces protégées pour, soi-disant, les emmener dans des seaux 50 km plus loin pour refaire une espèce de center park pour espèces protégées. Vous dites qu'aucune étude, pour l'instant, ne montre si ça marche. Est-ce qu'il y a, en revanche, des études qui prouveraient le bien fondé de ce système de protection ? Système qui présente si bien, en tout cas dans le discours, que de fait, c'est la question que vous posez au début du documentaire. Et si, finalement, c'était ça, la solution ?
Il n'y a pas eu d'études, on peut parler des États-Unis parce que c'est quand même le pays où c'est le plus développé. Il n'y a pas eu d'études globales sur les résultats qu'on pouvait avoir. Il y a des études partielles. Certaines montrent que les résultats sont plutôt corrects, d'autres pas du tout. En tout cas, il n'y a pas d'obligation de résultat. Il y a une obligation légale de mesures à mettre en œuvre, de moyens à mettre en place, mais il n'y a pas d'obligation de résultat. Et j'ai posé cette question-là donc au patron de Wildlands, donc cette biobanque américaine. Il nous a fait visiter un endroit où il devait y avoir beaucoup de serpents d'eau. On était sur un petit marécage et je lui dis, mais au bout d'un moment, si vous ne trouvez plus de serpents au bout de quelques années? Et la réponse a été, ben on aura fait tout ce qui était possible pour le sauver, voilà, pour sauver cette espèce. Mais il n'y a pas d'obligation de résultat.
C'est comme s'il n'y avait plus d'obligation de résultat nulle part. Dans votre documentaire, on voit Ban Ki-moon faire état avec une modestie désarmante de l'échec de toutes les politiques qui ont été mises en place pour essayer de protéger l'environnement. Et puis on voit également un commissaire européen qui lui aussi, très simplement, avoue, reconnaît l'impuissance des gouvernements, des politiques, à faire quoi que ce soit pour endiguer l'extinction massive des espèces, le réchauffement climatique. Et cette tranquillité dans la façon de parler, d'énoncer ces échecs et cette impuissance, sont une porte ouverte, mais royale, à l'arrivée du marché, effectivement.
Ce n'est pas qu'un aveu d'impuissance, c'est une reconnaissance d'un échec total, mais sans donner les causes, les raisons de cet échec. Et c'est là-dedans que s'engouffrent en fait énormément de nouvelles entreprises. On parlait tout à l'heure donc de cette évaluation économique de la nature. On est allé interviewer un responsable d'un fonds d'investissement d'un nouveau genre, toujours aux États-Unis, qui nous a dit « Notre système économique actuel a été créé il y a 150 ans, à une époque où ce qui était rare, donc ce qui avait de la valeur, c'était le capital et le travail. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est rare et qu'est-ce qui va être de plus en plus rare? Ce sont les ressources naturelles. » Et j'ouvre toujours les guillemets. Il a dit, imaginez la valeur de la dernière forêt sur Terre. Imaginez la valeur du dernier cours d'eau non pollué sur la Terre. Il a dit, ça aura plus de valeur que n'importe quel diamant, parce que c'est ça qui va être de plus en plus rare. Et lui a monté ce fonds d'investissement pour investir dans ces derniers espaces naturels protégés. Il a parlé de la loi économique de l'offre et de la demande par rapport aux espèces protégées. Aujourd'hui, ce qui est rare et ce qui prend de la valeur, ce sont ces espèces qui sont en voie d'extinction, qui sont presque éteintes. Il explique très bien avec ces mots, le constat scientifique dans lequel on est, que certains appellent l'anthropocène, on est dans la sixième extinction de masse des espèces vivantes. La dernière fois qu'il y a eu une crise d'extinction aussi forte dans les temps géologiques, c'était il y a 65 millions d'années, c'était quand les dinosaures ont disparu. Et on ne se rend pas compte, mais on est, selon les scientifiques, dans une même crise d'extinction. Et pour ces nouveaux entrepreneurs, ben c'est une chance. Et eux vont pouvoir gagner de l'argent en faisant le bien, en protégeant les derniers espaces naturels sains, les dernières espèces sur la planète.
Si ce n'est que si on vous écoute bien, Sandrine Feydel, enfin si on écoute bien à travers vous cet investisseur, quelqu'un qui a la fibre économique développée à ce point, comprendra assez rapidement que plus vite les choses seront rares et plus vite on accédera à des valeurs exceptionnelles.
Ce que nous montrons dans le documentaire, c'est que ces nouveaux systèmes de marché pour soi-disant protéger l'environnement sont en fait des droits à détruire. Elle donne l'autorisation, ces crédits biodiversité, ces nouveaux marchés de la biodiversité, parce que c'est vraiment de cette façon-là qu'on les appelle, permettent à des entreprises de continuer à détruire. J'ai le droit, je peux continuer à détruire, je peux détruire la forêt amazonienne pour y faire une nouvelle mine, parce que je vais payer pour compenser.
Et continuons dans la logique économique, je vais payer moins que ce que je vais gagner.
C'est pour cela que le mécanisme est sûrement spéculatif. Et c'est la crainte que beaucoup d'économistes et beaucoup aussi d'organisations non gouvernementales brandissent. Parce qu'en fait, effectivement, l'intérêt d'avoir des crédits, l'intérêt d'avoir ce nouveau type d'action, c'est que plus tard, ils rapportent. Et je vais faire une parenthèse en parlant de la dernière crise financière. Lors de la dernière crise financière...
Celle des subprimes.
La crise des subprimes, donc en 2008, qui a commencé aux États-Unis. Il se trouve que les banques et d'autres institutions financières, parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas forcément vers une banque qu'on va tout de suite prendre un prêt. En tout cas, des prêts ont été accordés à énormément de foyers modestes pour acheter des maisons, pour devenir propriétaire des maisons. Et ces foyers n'avaient pas de quoi rembourser leurs prêts. Et au moment où de plus en plus de foyers n'ont plus pu rembourser donc le prêt, on a vu ce château de cartes qui s'est effondré. Et c'est là que le monde entier a découvert tous ces mécanismes financiers qui avaient été créés. C'est là qu'on a découvert que ces prêts ne restaient plus dans des banques, que ces prêts étaient transformés en titres financiers, qu'ils étaient ce qu'on appelle séparés en tranches, que ces tranches-là étaient placés sur différents marchés secondaires et étaient plus ou moins rentables selon le risque qu'ils présentaient. Et au moment où le château de cartes s'est effondré, on s'est rendu compte aussi que certaines institutions financières avaient spéculé sur l'incapacité des ménages à rembourser leurs prêts. Certains économistes aujourd'hui nous disent que cette même logique-là peut être appliquée à la protection des espèces en voie de disparition. Si vous prenez l'exemple des biobanques, une biobanque a l'obligation de protéger les espèces. Elles en sont responsables légalement. Elles doivent s'assurer en cas de faillite. Jusqu'à récemment, ces marchés-là étaient uniquement des marchés qu'on appelle de gré à gré, c'est-à-dire entre un acheteur et un développeur, entre la biobanque et l'entrepreneur qui voulait construire une maison, enfin un lotissement, qui voulait construire une entreprise. Se greffe aujourd'hui un échelon supplémentaire, c'est-à-dire que des fonds d'investissement, là encore, sont intéressés et proposent des portefeuilles d'actions d'espèces en voie de disparition. C'est le tout dernier développement donc, de ces marchés de la biodiversité. Ça veut dire que dans un futur très proche, il sera possible d'acheter dans une biobanque à Bornéo des actions pour protéger les orang-outans et d'avoir un portefeuille avec des actions lézards, de la Californie, avec les actions mouches, voilà, du sud de la Californie aussi, et d'avoir un portefeuille. Évidemment, là encore, il y aura aussi des produits d'assurance qui vont se greffer là-dessus. Ça arrive déjà, ça existe, ces produits-là d'assurance existent. Et donc le risque, c'est de voir ces produits d'assurance mis sur des marchés secondaires et échapper au contrôle des premières personnes, premières institutions qui les émettent. Et si on prend la même logique que la crise financière, ça veut dire que à la fin, il va être possible de spéculer sur la disparition de telle ou telle espèce.
À quoi il faut ajouter, Sandrine Feydel, que les acteurs de cette histoire complètement ahurissante que vous êtes en train de nous raconter sont les mêmes que ceux de la crise des subprimes. Vous avez retrouvé derrière les biobanques, derrière les fonds d'investissement, les mêmes grandes banques qui sont là depuis le début et qui ont effectivement provoqué cette première crise catastrophique de 2008. Ce ne sont pas de nouveaux acteurs, même si le marché a l'air nouveau.
On se rend compte qu'il y a une imbrication de plus en plus importante entre la protection de la biodiversité, les personnes, les entreprises, voilà, enfin ces nouveaux acteurs protégeant la biodiversité, et des acteurs financiers qui sont voilà, déjà là. Et je voudrais parler d'un organisme qui s'appelle l'écosystème marketplace. Traduction littérale, c'est la place de marché des écosystèmes. C'est un organisme qui se présente comme une organisation non gouvernementale. C'est une personne qui est très engagée dans la protection de l'environnement, qui est à la tête donc, de cet organisme, et qui nous a clairement dit « on a déjà tout essayé ». Aucun environnementaliste, aucun défenseur de l'environnement ne pourra me dire l'inverse. On a tout essayé, on a échoué. Il faut trouver des mécanismes financiers innovants pour nous permettre de sauver la biodiversité. Donc il a monté cette structure qui se veut une structure d'information financière. C'est ce qu'il appelle ça, une sorte de Bloomberg, on va dire de Financial Times, de ces nouveaux marchés de l'environnement. L'idée, c'est de montrer leur potentiel de croissance. Donc ils ont créé deux outils. Le premier outil, c'est la banque d'espèces. Et cette banque d'espèces recense en fait toutes les biobanques qui existent aux États-Unis et dans le monde. Pour chacune des biobanques, indique quelles espèces les biobanques protègent et indique aussi le nombre d'actions qui ont été émises. Donc aux États-Unis aussi sur toutes les biobanques qui commencent à exister. Leur but, c'est vraiment de s'internationaliser. L'autre outil qui a été mis en place, ils ont appelé ça le Matrix. Je ne sais pas s'ils se rendaient compte. Voilà,
on peut penser que oui, ils sont tellement raffinés.
Voilà. Donc le Matrix, cette matrice propose les 24 types d'instruments de marché existants pour protéger la biodiversité. Donc ça va des marchés du carbone à ces nouveaux marchés de la biodiversité, en passant par les marchés de l'eau, en passant par ce qu'on appelle les services récréatifs, c'est-à-dire tout l'argent qui peut être fait, par exemple, quand on va se promener en forêt et que voilà, on fait des découvertes, ou toutes les zones naturelles que l'on va voir en fait pour le bien-être des humains, les ressources génétiques, voilà, ils ont fait un tableau énorme pour montrer aux décideurs politiques, pour montrer à des investisseurs potentiels l'importance de ces nouveaux marchés. Et ils ont estimé que ces nouveaux marchés de la biodiversité proposés par les biobanques avaient un potentiel de croissance de 10% par an, de 55% voilà, pour le carbone. Et c'est une sorte de lobby, c'est ce qu'on a découvert, qui fait avancer au niveau des institutions internationales, au niveau de différents États, l'idée que ces marchés peuvent contribuer à la protection de l'environnement. Et quand on a creusé, quand on a regardé qui il y avait dans leurs différents bureaux, que ce soit dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance, parce qu'ils ont en fait différentes entités, bah effectivement, on a trouvé des gens qui appartiennent à différentes banques. Donc par exemple, Bank of America, Merrill Lynch, C'est un acteur qui a été assez connu pendant la dernière crise, donc des subprimes. Ils ont été récemment condamnés à payer une amende record de 17 milliards de dollars au gouvernement américain pour que le gouvernement arrête les poursuites judiciaires liées à cette dernière crise des subprimes. On trouve aussi des personnes qui travaillent pour JP Morgan Chase. Donc c'est la plus grande banque américaine qui a dû elle aussi verser donc une amende de 13 milliards de dollars. On trouve d'autres banques comme Citigroup aussi. Et puis on trouve aussi des fonds qui ont été montés par des anciens donc de la banque Goldman Sachs qui est bien connue pour avoir spéculé sur l'incapacité des ménages à rembourser donc leurs prêts. Ça signifie que ces acteurs sont en train de regarder l'évolution de ce marché, sont en train de se positionner, sont en train de voir si effectivement il y a des possibilités de gagner de l'argent et comment. Et sont surtout en train de placer leurs pions aussi quelque part, parce que l'écosystème Marketplace, on l'a quand même nous retrouvé dans un groupe de travail de la Commission européenne chargé de réfléchir sur l'intérêt de ces biobanques à l'européenne. Que, voilà, si ces biobanques pouvaient aider à la protection de la biodiversité au niveau européen, puisque, comme vous l'avez rappelé, le commissaire européen a avoué son échec total à la politique européenne à avoir préservé donc, les espèces.
Et je ne résiste pas au plaisir d'ajouter qu'on revoit ce commissaire européen un peu plus loin, un peu plus tard, qui s'adresse à un public de l'OCDE, si j'ai bien compris, et qui est là beaucoup plus affirmatif et martial en disant « je ne parle pas de croissance verte, je parle de croissance tout court ». Ce qui compte, ce n'est pas la protection de l'environnement, ce qui compte, c'est cette opportunité. Ce sera presque le mot de la fin, avec cette phrase que vous avez prononcée, Sandrine Feydel, qui pour moi résume un peu toute l'efficacité de ce château de cartes extraordinaire qui a été échafaudé en quelques décennies. Aucune obligation de résultat.
C'est ça, on n'a pas d'obligation de résultat.
Nature, un nouvel Eldorado pour la finance, c'est donc le titre de ce documentaire que vous co-signez, Sandrine Feydel, avec Denis Delestrac, qui sera diffusé sur Arte le 3 février à 20h30, une heure de grande écoute, bravo. On n'a pas dit un mot des images, elles sont absolument somptueuses.
Oui, elles ont été tournées par Michel Anglade. Et la société de production qui a donc produit ce documentaire et via Découverte Production. Je rajoute aussi qu'on est en train d'écrire un livre avec Christophe Bonneuil, qui est donc historien, qui sortira donc aux éditions de la Découverte au mois d'avril ou au mois de mai.
Et qui sera le livre du film.
On va raconter tout ce qui n'a pas pu être conservé au montage, toutes les histoires, tous les personnages, tout ce qu'on a découvert en plus, parce que un an d'enquête, des mois de tournage, sont difficilement résumables en une heure et demie, même si on a réussi à le faire, mais ça nous permet vraiment d'aller plus loin, et surtout, grâce à l'intervention de Christophe, de donner une dimension beaucoup plus historique aussi à tous ces mécanismes de marché, parce que ces mécanismes ont une histoire, ils ont commencé à un certain moment, une certaine époque, avec un certain but, et c'est des acteurs très particuliers qui les ont mis en place et qui les développent depuis ces quelques décennies, donc c'est pour donner toutes ces clés qu'on a décidé donc d'en faire aussi un livre.
On voit quelques opposants à ces mécanismes, justement, qui sont des opposants connus internationalement. Il y a Vandana Shiva, il y a Pablo Solon, il y a Geneviève Azam, en France également.
Yuta Kiel aussi, du Mouvement mondial des forêts. Il faut savoir, en fait, que, très bizarrement, beaucoup d'organisations non gouvernementales de protection de la nature, beaucoup d'associations de défense de l'environnement se sont prononcées en faveur de ces marchés de la biodiversité. Pour elles, la protection de l'environnement coûte cher, les donations ne suffisent pas, il faut trouver de l'argent là où il y en a. Les États ne donnent plus assez non plus par des subventions. Donc certaines associations se sont tournées vers des grandes entreprises, vers des multinationales, et co-finance avec elle donc des projets de protection de l'environnement. Et un certain nombre d'autres organisations non gouvernementales donc qu'on a interviewées, dont les Amis de la Terre, dont le Mouvement mondial des forêts, qui sont complètement opposés à cette marchandisation de la nature, à cette financiarisation donc du vivant. Et c'est elle qu'on a interviewée. Et ce qui est intéressant, c'est que ces associations-là ne séparent pas la protection de l'environnement dans les pays du Sud, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout dans les pays du Sud qu'il reste beaucoup à protéger, parce que dans les pays occidentaux, on a beaucoup, beaucoup détruit déjà. Et ces endroits-là sont des zones utilisées pour les besoins vivriers, les besoins de production alimentaire, des besoins de chauffage par des populations locales qui souvent sont pauvres, que ce soit en Amérique du Sud ou que ce soit en Afrique. Et elles ont décidé, ces associations, de protéger la nature en protégeant aussi les hommes qui en dépendent. Et elles cherchent à protéger la biodiversité en questionnement le modèle de consommation. Les modèles proposés par les marchés de la biodiversité nous maintiennent dans un modèle qui est productiviste, qui est dans un modèle de croissance. Et ces associations-là invitent plutôt à s'interroger sur ce modèle de développement et sur les conséquences du développement que l'on a, nous, au Nord, sur les populations du Sud.
Et sur la planète tout entière.
Oui.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Je vous rappelle que le documentaire de Sandrine Feydel sera diffusé mardi prochain, 3 février, sur Arte à 20h40. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre qui vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon, mixage, Stéphane Desmonts, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.